Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 14 décembre 2022, en direct de Washington, Idrissa Sevulia. Les titres pour commencer, ouverture hier à Washington du sommet États-Unis-Afrique en présence de chefs d'État et de gouvernement de 49 pays africains. L'Argentine de Messi en finale du mondial, en attendant le gagnant de l'autre demi-finale, France-Maroc, programmé ce soir. En RDC, on déplore maintenant plus de 120 morts dans des inondations à Kinshasa. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois, échappe à une procédure de destitution. Au Sénégal, deux députés qui ont agressé physiquement une collègue au Parlement ont été placés en garde à vue. Les chefs d'État et de gouvernement de 49 pays africains sont ici à Washington, où ils participent depuis hier au sommet États-Unis-Afrique. Au premier jour, l'accent a été mis sur l'apport de la diaspora africaine, de la jeunesse et de la société civile. Mais d'autres sujets, comme le changement climatique et la paix et la sécurité, étaient aussi au menu. Abdourahmane Dia.
La première journée a vu la participation de centaines de personnes venues parler environnement, paix et sécurité, le rôle de la société civile. Mais c'est la table ronde sur la diaspora africaine qui a ouvert ce sommet. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné l'apport des migrants africains dans la société américaine, mais aussi dans leur pays d'origine, d'où leur importance dans la nouvelle stratégie américaine en Afrique.
L'importance de la diaspora pour le passé, le présent et l'avenir des nations africaines et des États-Unis explique pourquoi cet événement est l'un des tout premiers du sommet des dirigeants africains. Au début de cette année, en Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion d'exposer la nouvelle stratégie du gouvernement pour l'Afrique subsaharienne. C'est une stratégie qui repose sur un mot-clé, le partenariat, et dans la reconnaissance du fait que nous ne pouvons résoudre aucune de nos priorités communes si nous ne travaillons pas ensemble.
Le chef de la diplomatie américaine a eu plusieurs entretiens avec des chefs d'État comme Félix Tshisekedi de la RDC, avec qui il a abordé la question du changement climatique, Macky Sall du Sénégal ou encore Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Ce mercredi se tient le Forum des affaires États-Unis-Afrique où plusieurs accords commerciaux devraient être annoncés. Le président Joe Biden, qui n'a pas participé à la journée d'hier, prononcera un discours pour clôturer les travaux de ce mercredi en début d'après-midi, avant d'accueillir plus tard dans la soirée ses homologues pour un dîner.
Donc, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est parmi les chefs d'État présents au sommet États-Unis-Afrique. Qu'attend le gouvernement de Kinshasa de ce sommet? Eddie Issango a reçu dans nos studios le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya.
C'est pas que l'ultimatum ne marche pas, parce que l'alternative au non-désarmement, au non-retrait du M23, c'était des opérations militaires. Et vous avez vu que les contingents kenyans ont fini de se déployer. Il y a des plans opérationnels qui sont en cours. Les militaires sont en train de faire leur travail. Les moments venus, ils interviendront, vu qu'il n'y a clairement pas de volonté de souscrire au schéma de la paix, suivant ce qui avait été convenu. Après les mini-sommets de Luanda, il était prévu une réunion d'évaluation de tous ces chefs d'État. Il est probable que cette réunion se tienne ici à Washington et cette question là sera abordée et on verra la suite qui en sera réservée.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé la semaine dernière le président Paul Kagame pour lui demander de cesser tout soutien au M23. Aujourd'hui, le sommet Afrique-Amérique commence. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet?
Bon, écoutez, sur le soutien du Rwanda au M23, ça apparaît désormais comme né sur les visages. Nous avons publié, avant d'arriver ici à Washington, un livre blanc où nous avons documenté les différents crimes qui ont été commis par les RDF et nous avions accompagné notre argumentaire par des preuves, des images satellites, vidéos, des déclarations, des tenues, des militaires qui ont été arrêtés sur le front. Nous venons ici pour parler justement aussi de paix avec le gouvernement américain et nous pensons que la question de Grand Lac est une des questions qui pourra être abordée et nous espérons que cette fois-ci le président Kagame entendra raison pour cesser de continuer au 21e siècle d'être celui qui pense que la violence est la stratégie qui doit permettre à son pays de continuer d'avancer.
Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo.
VOA Afrique à Washington. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Et maintenant, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Lionel Messi a une marche du Graal avec un doublé de Julian Alvarez. Hier mardi, l'Argentine a puni la Croatie 3-0 en demi-finale et offert à son capitaine une nouvelle finale planétaire dimanche contre la France ou contre le Maroc, opposé ce mercredi soir, Eric.
Qui se dressera dimanche sur la route de Messi. La France, championne du monde en titre et bourreau de l'Argentine en 8e en 2018, ou bien l'étonnant Maroc, première équipe africaine qualifiée pour le dernier carré et emblème du monde arabe, galvanisé par ses exploits contre les cadors belges, espagnols et portugais, tous sortis groggy de leur duel face à une défense de fer et une attaque rapide, technique et déroutante, le Maroc fait peur. Le reportage de notre consultant sportif, Amin Birouk, à Doha.
Nous avons toujours faim et nous ne sommes pas fatigués. Ces propos de Walid Regragui illustrent l'état d'esprit de l'équipe du Maroc à quelques heures d'affronter la France lors du match le plus important de l'histoire des Lions d'Atlas. Une demi-finale de Coupe du Monde où il s'agira pour eux de renverser une nouvelle montagne, à savoir battre les tenants du titre. Une mission rendue encore plus difficile en l'absence du défenseur Naïf Aguerd, qui ne s'est pas entraîné ce mardi, et le plus que probable forfait du capitaine Romain Saïs. En face, les Bleus de Didier Deschamps débarquent au Stade El Beit avec leur certitude, notamment leur quatuor offensif Mbappé, Griezmann, Giroud et Dembélé. Quatre éléments que les Marocains devront surveiller de très près, avec leur organisation défensive étanche et un gardien Yassine Bounou particulièrement vigilant. Le collectif marocain pourra-t-il continuer à écrire positivement son destin en Coupe du Monde? Offrira-t-il un nouveau frisson à la planète foot? Fera-t-il le bonheur de toute une nation et de tout un continent? Réponse le mercredi à partir de 21h en temps universel. Depuis Doha au Qatar, Amin Birouk pour la VO Afrique.
France-Maroc au croisement de l'histoire et des rêves, suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. La seconde demi-finale qui se joue ce soir entre la France et le Maroc déborde largement du cadre sportif pour des raisons de pesanteur historique et sociologique. Mais sur le plan strictement sportif, cette affiche ne manque pas d'allure au vu des brillants parcours effectués par les deux formations depuis le début de la compétition. Le Maroc, invaincu, présente la meilleure défense du tournoi et la formation française, plus convaincante qu'en 2018, carbure en attaque. Il est donc évident que les deux sélectionneurs vont conserver leur base tactique dans une rencontre où les Français ne bénéficieront pas des espaces habituels pour déployer leur jeu en profondeur. La clé de la rencontre peut venir des gradins où le 12e homme sera marocain, mais ce soutien inconditionnel peut aussi générer une pression négative. L'état de fraîcheur physique doit aussi être pris en compte pour les représentants du continent qui ont maintenu une cadence infernale. Et pourquoi pas un scénario favorable à la fin de la rencontre comme une ouverture du score? Dans tous les cas, la réponse à ces multiples interrogations est attendue ce soir et toute l'Afrique espère que ce soit au profit du Maroc. À bientôt.
L'Argentine est la première équipe qualifiée pour la finale du Mondial de 2022 de football qui s'achève le 18 décembre dans un stade de Luseil acquis au Cancier les Blancs. Les trois buts inscrits ont libéré les milliers de supporters argentins massés dans les gradins, religieusement dévoués à la cause de leur numéro 10 Messi, malgré les difficultés initiales de l'Albicéleste au Qatar. Je suis en ligne avec Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant. Tarsis, victoire méritée, n'est-ce pas?
Oui, parfaitement. C'est un match facile finalement, une finale méritée pour les Argentins qui ont fait le match, à mon avis, de leur rêve avec un Messi exceptionnel, organisateur, passeur, buteur qui offre le doublé à Alvarez. Je pense que Messi signe son 11e but à Coupe du Monde. le 7e ballon d'or. Et puis l'équipe d'Argentine était quand même une équipe qui avait réalisé pas mal d'activités, pas mal de résultats, 42 matchs, seule défaite avec l'Arabie Saoudite. C'était une équipe quand même qui devait s'imposer, à mon avis.
Que prédire de la finale?
Pour la finale, je pense que les Argentins espèrent plutôt rencontrer le Maroc que la France. Ça, c'est mon avis. Ils ne sont pas très fatigués. On ne sait pas ce qui va se passer entre le Maroc et la France. Mais je pense que les Argentins comptent sur ce match. Et pourquoi pas, je pense que Messi, pour lui, il est avec les dieux. Hein. Il est avec les dieux. Tu sais, actuellement, en Argentine, on est en train de chanter. Et les dieux argentins aimeraient que ce soit le Maroc qui rencontre évidemment les Argentins.
Dans le reste de l'actualité, en RDC, plus de 120 personnes ont péri mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement congolais. Dans son journal du soir, la télévision officielle avait évoqué au moins une centaine de morts, après un premier bilan de 55 morts fournis dans la journée par la police de la capitale congolaise, Jacques Aristide.
À l'issue d'une réunion de crise, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce mercredi, ont précisé dans un communiqué les services du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Les inondations ont également causé d'importants dégâts matériels et submergé en début de matinée jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Selon les autorités, les victimes se comptent dans différents quartiers et communes de la ville, notamment dans des vallons où des habitations ont été détruites par des glissements de terrain. La pluie tombée en abondance durant la nuit a paralysé la capitale congolaise et provoqué notamment un glissement de terrain dans un quartier périphérique qui a coupé net la route nationale 1, essentielle à l'approvisionnement de la ville.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a échappé à l'ouverture d'une procédure de destitution hier. Le Parlement s'y est largement opposé lors d'un débat houleux. M. Ramaphosa est embourbé dans un scandale depuis des mois. Il est accusé d'avoir caché à la police et au fisc un cambriolage dans sa propriété de Falafala, où il élève des bovins rares. En février 2020, des intrus sont repartis avec 580 000 dollars qui étaient dissimulés dans un canapé, le fruit de la vente de 20 buffles, d'après le président, de l'argent sale selon la plainte déposée en juin dernier par un opposant politique. Cyril Ramaphosa n'est pas inculpé alors que l'enquête se poursuit. Au Sénégal, les deux députés de l'opposition qui ont agressé physiquement une parlementaire du camp au pouvoir à l'Assemblée nationale le 1er décembre ont été placés mardi en garde à vue pour coups et blessures volontaires et menaces de mort, a indiqué un chef de la police. Ils étaient depuis mardi matin interrogés par la division des investigations criminelles et recherchés depuis le 3 décembre. Massata Samb a giflé la parlementaire Amine Diaye et Mamadou Niang lui a donné un coup de pied au ventre le 1er décembre au cours du vote du budget du ministère de la Justice après qu'elle a tenu, selon M. Samb, des propos irrespectueux contre leur chef religieux dirigeant leur parti. Amine Diaye, maire de la commune de Nibi, était enceinte et avait ensuite été admise dans un établissement hospitalier, selon des députés du parti au pouvoir. Sénégal toujours, des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises dans la gestion des fonds anti-Covid selon une institution de contrôle qui demande l'ouverture d'une information judiciaire contre au moins 10 responsables dans un rapport consulté mardi par l'AFP. De nombreux responsables d'Afrique subsaharienne sont soupçonnés de détournement ou de mauvaise gestion des fonds consacrée à la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment au Cameroun, en Guinée ou en Afrique du Sud. En bref, la Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé mardi des peines allant de 2 à 18 ans de prison pour les 8 personnes jugées au procès de l'attentat de Nice où un Tunisien au volant d'un camion bélier avait fait 86 morts le 14 juillet 2016.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seguia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Tchadiens de l'intérieur comme de la diaspora apprécient diversement la participation de Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition tchadienne, au sommet États-Unis-Afrique de Washington, souligne notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajingar. Déjà ici à Washington, manifestation d'un groupe de Tchadiens vivant aux États-Unis devant l'hôtel où sont logés le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, et sa délégation. Certains des Tchadiens résidant aux États-Unis ont réservé un accueil chaleureux au général. D'autres groupes, en revanche, exigent la libération de toutes les personnes arrêtées et condamnées à des peines de prison ferme à passer au bagne de Corotoro, mais aussi de faire la lumière sur toutes les personnes disparues avant, pendant et après les manifestations du 20 octobre, réprimées dans le sang, qui ont forcé d'autres à quitter le pays.
Nous sommes très très remontés ici au niveau des États-Unis avec les tueries depuis le 20 octobre 2022. Vraiment, nos cœurs sont en train de se faire.
Je suis fatigué de voir mes frères se faire tuer.
Aujourd'hui, des jeunes ont été poussés à vivre comme des chiens. Certains nous appellent du Burkina Faso, du Cameroun, parce que le système les chasse comme des chiens. C'est inacceptable. Et nous sommes ici pour dire à l'administration Biden que ce sommet d'hypocrisie et d'injustice-là, le jeu est connu.
Au Tchad même, certains défenseurs des droits de l'homme proches du régime estiment que ce sommet est une occasion pour le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, de se laver la face, nous dit N'Djamena André Kodmajingar.
Au niveau national, certains défenseurs des droits de l'homme proches du régime estiment que ce sommet est une occasion pour le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, de se laver la face.
Je mesure l'importance de ce sommet pour le Tchad, un moment politique très important et très capital pour que le président de la transition puisse échanger de toutes les questions politiques afin que le Tchad puisse avoir beaucoup plus de crédibilité au niveau international dans l'appui de la transition.
Mahamat Digadiba est coordonnateur de la CACIDO, une ONG nationale pour la défense des droits de l'homme.
Nous pensons que c'est l'occasion pour le président de la transition de rassurer ses homologues que les événements du 20 octobre, dont lui-même il a déploré, pour faire passer le message afin que la communauté internationale puisse aider les Tchadiens à s'asseoir pour une véritable réconciliation.
Pour Max Kamkoui, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès, si les États-Unis tiennent compte des valeurs démocratiques, l'administration Biden ne peut pas inviter le président tchadien de la transition à ce sommet.
Une telle personne qui a un passif lourd en matière de crime ne devrait pas prendre part à ces sommets. Malheureusement, comme les intérêts des puissants sont au-delà des intérêts des peuples, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby ne prend part à ces sommets, parce qu'il s'agit de compromissions. Mais moi, je voudrais dire tout simplement au gouvernement américain que les temps ont changé. Au lieu d'être objectif, de privilégier les droits humains, la démocratie et les libertés, mais s'ils veulent continuer à appuyer quelqu'un, ne serait-ce qu'il va protéger leurs intérêts, il ne pourra pas.
Un sommet qui se tient sans le Burkina, la Guinée, le Mali et le Soudan. Ces quatre pays africains, selon Washington, ont connu des coups d'État. André Kodmajingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ce sommet États-Unis-Afrique veut mettre en évidence l'engagement des États-Unis envers l'Afrique et renforcer la coopération sur les priorités communes, dont la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique, où Washington est impliqué dans la lutte contre les groupes terroristes. Le point avec Jenny Noua.
Al-Shabaab, Boko Haram, le groupe État islamique et d'autres mouvements extrémistes font des ravages sur le continent. Washington a dévoilé en août une nouvelle stratégie pour l'Afrique subsaharienne afin de contrer les groupes terroristes. La Maison-Blanche dit qu'elle va travailler avec et par l'intermédiaire des pays africains sur une base bilatérale et multilatérale pour atteindre des objectifs communs en matière de lutte contre le terrorisme et promouvoir des approches dirigées par des civils lorsque cela est possible. AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, est militairement impliqué en Somalie, qui est aux prises avec Al-Shabaab. Au mois de mai dernier, le président Joe Biden a autorisé le redéploiement des soldats américains en Somalie pour aider à combattre les djihadistes, une mesure saluée par le président somalien Hassan Sheikh Mahamoud, qui a été réélu le même mois.
Déjà, les États-Unis sont le plus grand donateur en matière de sécurité et en exerçant la décision prise par l'ancien président Donald Trump, c'était une très bonne décision.
Les groupes terroristes tirent profit des États où règne la corruption, l'insécurité et la mauvaise gouvernance. Face à toutes ces menaces, les États-Unis n'ont guère d'autre choix que d'adopter une approche d'implication directe par une présence physique en Afrique. À Djibouti, les États-Unis dispose d'une base militaire. Pour Mahmoud Wassougué, un analyste basé à Mogadiscio, les États-Unis et les institutions africaines ont besoin d'une collaboration solide pour réduire les menaces.
The US in general has a broad interest in Africa.
Les États-Unis ont des grands intérêts en Afrique, dont l'un des principaux est la lutte contre le terrorisme et la sécurité, en particulier contre certains groupes tels que Al-Shabaab et Boko Haram. Bien sûr, ils ont d'autres priorités, y compris la gestion des impacts du changement climatique, et ces priorités et d'autres nécessitent une collaboration étroite avec les pays africains.
Lors de sa récente visite à Washington DC, le président somalien Hassan Mahamoud a déclaré que les États-Unis se sont engagés à soutenir pleinement les stratégies de son gouvernement dans la lutte contre Al-Shabaab.
Nous avons eu une très bonne et fructueuse discussion sur notre objectif commun de combattre et d'éliminer la menace du terrorisme en Somalie, dans la Corne de l'Afrique et dans le monde.
Malgré les attaques constantes d'Al-Shabaab, les troupes somaliennes formées et financées par les États-Unis ont un impact énorme sur le terrain, car le groupe Al-Shabaab est sous pression depuis août, lorsque les forces gouvernementales et les milices claniques ont commencé une offensive. Une stratégie antiterroriste efficace nécessite aussi de s'attaquer aux problèmes structurels sous-jacents qui peuvent pousser les jeunes à commettre des actes violents. Mohamed Dahir Farah, un Américain d'origine somalienne basé à Mogadiscio, estime que Washington peut contribuer à remodeler les instituts économiques et les programmes de réduction de la pauvreté.
Les États-Unis ont signé un accord avec le gouvernement somalien pour le soutien au gouvernement. J'ai assisté à un programme de lancement de l'aide américaine. Principalement, les États-Unis font de leur mieux pour soutenir l'agriculture et d'autres secteurs susceptibles de stimuler l'économie somalienne.
Ce deuxième sommet États-Unis-Afrique va aussi aborder les questions liées au changement climatique, la gouvernance et la sécurité alimentaire sur le continent qui subit durement l'impact de l'invasion russe en Ukraine.
À noter, dans les relations entre les États-Unis et les peuples d'Afrique et d'autres parties du monde aussi, la loterie de la carte verte, officiellement connue sous le nom de loterie des visas de diversité, ce programme du département d'État américain alloue chaque année 55 000 visas de résidence permanente à des personnes originaires des pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis. Un ordinateur tire au sort les heureux gagnants qui sont alors autorisés à s'installer légalement ici aux États-Unis. Thierry Kaoré a rencontré une famille originaire du Burkina Faso qui s'est installée à New York grâce à ce programme. Son reportage.
Chaque année, au début du mois d'octobre, le site du Bureau des affaires consulaires du département d'État américain ne désemplit pas. Ils sont des milliers à y tenter de décrocher le fameux sésame de la carte verte afin de s'installer ici aux États-Unis. et c'est en 2011 que la chance a souri à monsieur et madame Diarra du Burkina Faso alors qu'ils venaient juste de célébrer leurs noces. Mariam Diarra explique.
Quand il a gagné, après le mariage, il devait faire un plus un. Donc, comme on était déjà mariés, il était autorisé à ajouter mes dossiers sur ce truc pour que je puisse venir avec lui. Et c'est comme ça, on a fait les dossiers, les documents, tout et tout pour arriver, pour qu'on puisse venir ici.
En 2013, Mariam atterrit à New York et s'installe dans le Bronx, un quartier où l'on retrouve beaucoup d'immigrés africains. Pas de barrière linguistique, elle s'adapte facilement à sa nouvelle vie new-yorkaise.
Je me débrouillais déjà un peu en anglais puisque j'ai fait l'anglais à l'université, j'ai eu le Doc 2 en anglais à l'université. Donc quand je suis arrivée ici, Dieu merci, j'avais des béninoises qui étaient avec moi, qui partaient déjà à l'école et elles m'ont montré CUNY, le site de CUNY, d'aller pour l'application de l'université. Je suis rentrée, j'ai fait l'application, ils ont demandé les dossiers et on a fait venir mon transcript de l'université de Ouaga. Ils m'ont accepté à l'université. Ce qui est bien dedans, c'est que je n'ai pas payé 5 francs.
Quelques années plus tard, elle sera rejointe par son époux. Une famille ainsi réunie, avec 2 enfants nés sur le sol américain. Monsieur Diarra dit que le choix de s'installer aux États-Unis faisait partie de ses objectifs.
Une fois que tu as décidé de tes objectifs de vie et que tu sais que ton environnement ne peut pas t'offrir ça, il faut le faire et c'est vraiment le moyen légal pour immigrer surtout aux États-Unis ici. J'allais dire légalement et comme elle l'a dit, avoir tous les avantages, toutes les opportunités, sauf que tu n'as pas le droit de vote jusqu'à ce que tu obtiennes le passeport.
Comme le programme le prévoit, 5 ans après son arrivée, Mariam Diarra a obtenu la nationalité américaine et son mari est également en phase de devenir citoyen américain. C'est la nouvelle phase d'une vie en changement. Et le rêve américain qui se réalise pour cette famille.
Depuis quelques mois, les Béninois se familiarisent avec les motos électriques. C'est une initiative de la société M Auto, basée au Togo et financée par un fonds souverain indo-africain. Parvenir à créer des emplois et la richesse par des solutions de développement respectueuses de l'environnement, c'est le but visé par la société M Auto. Comment ces motos sont-elles accueillies au Bénin? Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adambé.
Depuis quelques mois, la société M-Auto s'est hissée comme la première plateforme de mobilité électrique en Afrique. Alain Point est conducteur de taxi-moto. Il fait partie de ceux qui ont été choisis pour les tests effectués. L'expérience paraît concluante à son niveau.
Vous voyez, c'est les motos que vous voyez. On n'a pas de chaîne, ni couloir, ni bougie. Et ni pistons et autres. Donc, on va voir tout cet ordre. Dépensons sur les autres motos. Avec ceci, c'est un peu différent.
Blaise Sadiou est un indépendant qui a une boutique de téléphonie mobile. Pour lui, les motos électriques n'ont rien à envier aux autres.
C'est une moto qui facilement passe à 80, 85, 89. J'ai pas pu excéder, même avec sur le goudron, les 89. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le sans-bruit et la facilité de rouler ça. Quoi.
Selon Tchegong Bakari, le directeur général de M-Auto, 2000 véhicules électriques ont été mis en circulation entre Cotonou et Lomé. Ces véhicules, selon lui, ont déjà parcouru une distance de 2,5 millions de kilomètres sans la moindre émission de gaz et de fumée. Il souligne que la réaction des consommateurs est la preuve qu'ils attendaient des solutions respectueuses de l'environnement, efficaces et abordables.
L'impact écologique, il est direct. Hein. Vous savez, quand vous prenez une moto thermique aujourd'hui, en termes d'émissions, elle émet énormément. Au-delà de l'émission de carbone, en fait, il y a aussi tout ce qui est émission de particules fines et donc tout ça disparaît lorsqu'on passe à l'électrique en fait.
M-Auto offre des facilités à tous ceux qui veulent passer à l'électrique à travers des paiements échelonnés.
Ces personnes dépensent aujourd'hui énormément d'argent et nous leur proposons en fait en passant à l'électrique de pouvoir gagner 30 à 40% de plus par jour et donc de réduire la pauvreté.
Avant la mise en service de ces motos, il y a eu la signature d'un protocole d'accord entre la société M-Automobility et le gouvernement béninois. Présente à la signature du protocole d'accord, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a réitéré l'intérêt du gouvernement à ce projet.
Bienvenue au Bénin, dans cette nouvelle zone économique et spéciale qui concrétise l'écriture de nouvelles pages industrielles dans notre pays. Cela reflète la confiance que les investisseurs mettent aujourd'hui au Bénin, compte tenu de tout ce que nous offrons pour la facilitation des installations industrielles et des échanges commerciaux.
De Cotonou, Gilles Fleur, dans les Pouvoirs Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sédouya, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnou, à la console, Kelvin Paolo. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.